Radio Grand Ciel présente Be Jazz, soyez jazz, une émission réalisée par Patrick Durand et Gilles Secaz, avec à la technique Claude Casal et au micro Christiane Blain. Vous connaissez Patrick Durand, un médecin qui explique le cheminement de compréhension du jazz par la neurobiologie. Patrick Durand, bonjour.
Christiane Blain, bonjour.
Il est accompagné pour ses émissions par Gilles Secaz, un journaliste qui pratique la guitare dans des formations de jazz. Gilles Secaz, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Et aujourd'hui, dans notre jazz au cinéma, nous évoquerons Les Tricheurs. Les Tricheurs, c'est un film de Marcel Carné qui est sorti en 1958. Une comédie de mœurs autour d'une bande de jeunes parisiens plutôt aisés, dirons-nous, de la fin des années 50. Ils vivent, gavés de musique de jazz, entre rive gauche de Saint-Germain-des-Prés et rive droite du 16e arrondissement de Paris. Ils s'enivrent de vitesse et expriment leur volonté d'afficher leur refus des conventions sociales et des valeurs bourgeoises.
Voilà un jazz comme je l'aime, avec un de mes pianistes préférés, Oscar Peterson, qui joue avec Stan Getz, qui est aussi un saxophoniste bien connu, très à la mode, avec une belle sonorité. Royal Ridge, qui aussi était un trompettiste très 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 connu, qui a joué d'ailleurs assez longtemps avec les formations, dans les grandes formations. Je pense qu'il a joué avec le Duke.
Absolument. Voilà. Mais moi, je n'oublierai pas, Patrick, si tu le permets. La guitare de Herb Ellis.
Herb Ellis, qui est le compagnon d'Oscar Peterson, avec lequel ils ont fait un long chemin.
Et je n'oublierai pas non plus le contrebassiste, Ray Brown.
Et Ray Brown, bien sûr. Mais c'est un trio, là, un trio extraordinaire. Et puis, il manque Ella Fitzgerald avec Ray Brown et Herb Ellis. Bon, cet aparté, nous allons le refermer et parler un petit peu de ce film, Les Tricheurs, où Marcel Carné a voulu dresser un constat de la jeunesse des années 50. Alors, une jeunesse, effectivement, en 50, qui écoute beaucoup de musique. Le microphone a fait des ravages, l'électrophone aussi. Et Marcel Carné a voulu dresser un constat et poser une réflexion sur les problèmes de génération et l'évolution des générations. Un sujet qui est assez neuf pour le cinéma d'alors, et qui provoque de vives polémiques à sa sortie, et un succès populaire immédiat.
Alors, racontons l'histoire. Bob vient juste d'apprendre qu'il a obtenu sa licence de sciences, mais plutôt que d'aller avec ses amis ou camarades de promotion fêter leur succès commun, il préfère rester seul à se remémorer tristement certains événements personnels récents sous le coup desquels il est encore. Pour le jeune homme, qui est interprété par Jacques Charrier, tout a commencé avec la rencontre d'Alain, interprété par Laurent Terzieff, qu'il a surpris chez un disquaire au moment où il dérobait un micro-sillon. Un acte gratuit qu'il se devait d'accomplir, dira-t-il plus tard. Alain, ayant abandonné Normal Sup, vit dans la Bohème au crochet de son entourage, fils de famille ou autre. Alain emmène Bob au Bonaparte, le café de Saint-Germain-des-Prés et quartier général d'une bande de plus ou moins jeunes oisifs avec lesquels l'étudiant en BCBG va se lier, dont Clotilde, Clo, qui l'invite à la surboom qu'elle organise le soir même dans l'appartement de ses parents. Clotilde est interprétée par Andrea Parisi.
Nous allons écouter le Close Blues, le blues pour Clo. Et c'est le Coleman Hawkins qui tient ici le saxophone alto. Oscar Peterson est toujours au piano.
Oui, nous sommes.
séduit par cette aventure et désireux surtout de retrouver son nouveau compagnon, Bob se rend à cette invitation. Claude se donne à lui au cours de la nuit et le jeune homme découvre avec ivresse l'univers de ses garçons et de ses filles qui s'abandonnent avec frénésie à une vision, je dirais, négative de la vie.
Nous écoutons maintenant Phil's Tune, le petit morceau donc pour Phil. Et Royal Ridge est toujours à la trompette, même formation qu'au début. Il joue ce thème sur un tempo lent.
La même nuit, Bob fait la connaissance d'une autre jeune fille, Michelle, Mick,
interprétée par Pascal Petit,
oui, qui produit sur lui une profonde impression. Sensible aussi à cette rencontre, celle-ci lui téléphone dès le lendemain pour qu'il vienne la rejoindre dans la chambre qu'elle sous-loue dans le quartier du Luxembourg.
Oui, les jeunes gens éprouvent l'un pour l'autre un véritable amour. Cependant, prisonniers de leur personnage, de la comédie qu'ils se jouent à eux-mêmes comme aux autres, refusant de trahir leurs convictions et d'admettre que leur désespoir peut être vain, ils préfèrent feindre le détachement, l'indifférence même, et se font inutilement mal.
Nous allons écouter maintenant un standard du jazz qui est Bernie's Tune, peut-être un petit peu moins joué à notre époque, mais très très connu. Et bien sûr, c'est Jerry Mulligan qui tient son célèbre saxo. Je suis toujours impressionné par le sax, par le baryton de Jerry Mulligan et sa facilité de faire des phrases complètes, un petit peu comme s'il parlait, avec un instrument qui est un petit peu difficile parce qu'il a une sonorité un petit peu basse, donc moins compréhensible pour nos pauvres oreilles qui, à l'heure actuelle, sont saturées par des sons très très aigus. Bien, nous allons revenir avec le film. Il s'agit donc, pour illustrer cette séquence, de Mick qui reçoit son frère.
Joué par Roland Le Saffre.
Voilà, il le reçoit dans sa chambre, il met un disque sur son électrophone, et la séquence parlée, c'est...
C'est bien ça, qu'est-ce que c'est ?
Mulligan, répond Mick.
Oui, c'est très, très amusant, parce que ce morceau... n'est qu'un clin d'œil, puisqu'il ne fait pas partie de la bande originale, mais c'est intéressant. Le désaccord entre Bob et Mick va s'aggraver quand le dessin les place en face d'un problème dont Bob mesure la gravité, alors que Michel n'y voit qu'un risque excitant. Gagner 600 000 francs, la somme qui permettrait à la jeune fille de payer son loyer et d'acquérir la voiture de ses rêves, en se livrant, à la place d'un autre, à des manœuvres de chantage.
Alors, nous allons écouter maintenant... encore une autre formation, plus du tout la même que celle du début. Il s'agit de Maxime Sory et son New Orleans Sound, La Huchette. Tu vas nous dire deux mots de la formation de Maxime Sory.
Oui, mais elle fait une apparition dans le film Les Tricheurs. On la voit assurer l'ambiance musicale au caveau de la Huchette, l'une des caves mythiques de Saint-Germain-des-Prés. Et donc Maxime Sory, pour les besoins du film, a composé cette partition qu'il a intitulée La Huchette. Et on reparlera plus tard de cette partition musicale parce que elle est faite à la fois de compositions originales et deux morceaux, comme nous venons de l'entendre, celui de Jerry Mulligan. Alors, Christiane.
Oui, je continue l'histoire. Oui. S'imaginant que Bob n'a pas l'audace d'accomplir cette entreprise, alors qu'il a en réalité décidé d'agir seul, Michel devient par dépit la maîtresse d'Alain. C'est seulement en comprenant son erreur, lorsqu'il la rejoint dans l'atelier même d'Alain pour lui porter l'argent, qu'elle mesure l'étendue de son amour pour Bob. Mais il est trop tard, et elle ne peut retenir le jeune homme qui la quitte en lui abandonnant les 630 000 francs dont elle va se servir pour acheter la Jaguar que vend le garage où travaille son frère. Alors ils se retrouveront tous les deux à l'occasion d'une nouvelle surboom donnée par Claude. L'orgueil et comme auparavant leur culte du désespoir, les incitent à se mentir de nouveau, toujours à simuler ici l'indifférence.
Alors, une petite critique, on croirait Marivaux avec une double inconstance. Nous allons écouter Mix Jump, un époustouflant solo de trompette de Dizzy Gillespie. Thank you.
incapable de supporter jusqu'au bout cette épreuve, Michel s'enfuit cependant. Bob cherchera en vain à rejoindre la jeune fille, partie au volant de sa voiture, et assistera, impuissant, à un effroyable accident présentant toutes les apparences d'un suicide. Alors pour appuyer cette scène au cours de laquelle Bob poursuit Michel en pleine nuit, Marcel Carné a demandé à Lionel Hampton et à Maz Mesro une partition qui est assez intéressante parce qu'elle appuie par un solo de batterie assez impressionnant de Lionel Hampton la fameuse poursuite. On l'écoute. Crazy Hump. La batterie de Lionel Hampton, jugée scandaleuse à sa sortie, considérée aujourd'hui comme un carnet mineur, qu'en est-il réellement de cette incursion du maître du réalisme poétique dans le genre portrait d'une génération ? Étonnant paradoxe, le film est à la fois daté et intemporel. Ancré dans le Paris des années 50, où Saint-Germain-des-Prés est un personnage en soi, avec ses caves, ses bistrots, son jazz omniprésent, éco-musical à l'existentialisme, intemporel car il y est question d'une jeunesse désabusée qui ne veut pas croire en son avenir et préfère le gâcher méthodiquement.
L'un des principaux intérêts du film Les Tricheurs réside bien entendu dans la bande sonore. On y trouve les grands noms du jazz. Et ce jazz, bien sûr, est omniprésent. Il est présent de façon réelle par des petites formations, contrairement à d'autres illustrations de films où l'on trouve des grands orchestres avec des partitions écrites. Il y a quand même un petit peu de liberté là, que l'on sent dans des musiciens professionnels, bien sûr, et qui sont des grands de l'époque. Alors, le jazz, on a dit, est présent dans ce film, mais par contre, Marcel Carné avait choisi de ne pas confier à un seul musicien de jazz de la bande sonore, mais à plusieurs. C'est pour cela que nous avons écouté plusieurs pianistes, plusieurs trompettistes, tout à coup un Mulligan qui arrive, et puis un Lionel Hampton qu'on connaît plutôt d'habitude au vibraphone qu'à la batterie. Revenons à notre film. Pour la peinture des mœurs d'une certaine jeunesse des années 50, Carnet avait souhaité illustrer musicalement ce que les jeunes gens de bonne famille écoutaient au quotidien. Autrement dit, ils écoutaient du jazz et du rock'n'roll. On va dire du jazz bien installé, du rock'n'roll qui commençait à être de plus en plus envahissant. Il s'est donc fait communiquer des centaines d'enregistrements à succès et il a effectué le choix de ses illustrations parmi la somme de disques qu'il a dû écouter.
Profitant de la présence à Paris du Jazz at the Philharmonic de Norman Granz, le JATP, Marcel Carnet confie à ses principaux membres du moment, que sont Roy Eldridge et Stan Getz principalement, la musique originale qu'interprètent Ray Brown, Stan Getz, Roy Eldridge, Oscar Peterson, Herb Ellis, Gus Johnson, mais aussi Coleman Hawkins, Sonny Stitt, Dizzy Gillespie. Maxime Sori et son New Orleans Sound interviendront également dans la BO, comme on a pu l'entendre tout à l'heure. Marcel Carnet n'a pas utilisé que cette musique originale, il a utilisé également en clin d'œil des enregistrements. On a entendu celui de Jerry Mulligan. Voici maintenant celui de Chet Baker et de son sextet, un morceau qui s'appelle Tommy Hawk. Pour la musique additionnelle, d'ailleurs dans le générique du film, on note musique de disque. Marcel Carnet a choisi des enregistrements de jazzmen tels que Chet Baker, que nous venons d'entendre, ou Jerry Mulligan, mais aussi Buddy Rich, Lionel Hampton, Mes Mesereau, mais aussi des artistes comme Ray Conniff, Al Castellanos, Fats Domino, P.T. Rugolo ou le Sotheby's Band et The Champs. Alors, il y a quelque chose d'intéressant aussi dans ce film, deux personnages qui sont incarnés, qui sont incontournables, qui sont incarnés par un jukebox que l'on voit au début, pour le générique du début, et le tourne-disque. Et c'est sur ce jukebox et sur ce tourne-disque que l'on peut entendre les morceaux que nous avons pu écouter tout à l'heure. Voilà. L'un de ces morceaux, c'est Tequila, et c'est interprété par Bill Shepherd, Tequila, qui remportera un très très grand succès à la suite de la diffusion de ce film Les Tricheurs.
Chers amis auditeurs, eh bien, il faudra absolument ne pas manquer notre cinquième émission. Notre cinquième émission, dans un mois, aura pour titre « Autopsie d'un meurtre ». Et là, on peut savoir, il faut savoir, que Duke Ellington a composé la bande originale de ce film, dans lequel on le voit apparaître en joueur de piano, dans une courte scène, il parle et il joue avec James Stewart. Vous le verrez, ce sera un très grand moment. Et si vous voulez nous retrouver sur notre site internet, n'oubliez pas www.radiograndciel.fr.